Fenêtre sur le monde vous conduit cette semaine vers les rives du Bosphore, vers la Turquie. Nous allons être entre Chypre et le Caucase pour évoquer le réveil de l'Empire turc, la stratégie d'Erdogan, ce que veulent les Turcs dans cette région qui est complexe, qui est vaste, et où l'on voit différents acteurs qui sont en train d'intervenir. Pour évoquer cette question turque, mes deux invités aujourd'hui, Christian Makarian, essayiste qui a notamment publié Géopolitique de la catastrophe et Tigran Yegavian qui travaille à la conflit, que vous avez l'occasion de lire à conflit, notamment dans des sujets qui traitent du Moyen-Orient. Et conflit qui vient de publier un numéro consacré à la Turquie, le réveil turc vers un nouvel empire, point d'interrogation. C'est ce que nous essayons de traiter dans ce numéro. Alors justement, Christian Makarian, on assiste à ce réveil de la Turquie sous la houlette d'Erdogan. Alors c'est pas complètement nouveau, parce que ça fait quand même quelques années déjà que Erdogan revitalisait le nationalisme turc. Mais là, on voit depuis 4 ou 5 ans un réveil de plus en plus présent, une présence turque en Libye, de manière détournée ou indirecte au Karabakh également, et en tout cas une volonté de plus en plus présente de réaffirmer un empire ottoman qui fait toujours rêver du côté d'Ankara.
Oui, alors il faut, à mon avis, faire plusieurs remarques sur tout ce que vous venez de dire et qui est tout à fait exact. Le mot d'empire pose problème, le mot ottoman pose problème, et il faut essayer d'éclaircir ça de façon brève. D'abord, je ne pense pas que la Turquie rêve de reconstituer un empire. Elle rêve à partir d'un schéma islamiste, parce que c'est le terreau originel de Recep Tayyip Erdogan. Elle rêve de prendre la tête du monde musulman, en tout cas du monde arabo-musulman, qui est littéralement en déconfiture depuis 2011 et les printemps arabes. Si j'ose dire, c'est une proie qui est à terre et qui suffit de ramasser. Et c'est à l'origine ce qui a motivé l'entrée dans le jeu syrien de la part d'Erdogan. Erdogan s'est engagé en Syrie parce qu'il pensait que renverser un dictateur, en l'occurrence Bachar el-Assad, c'était aller dans le sens des peuples arabes et prendre, si vous voulez, la tête de la conscience musulmane, en particulier des consciences arabes, contre des régimes dictatoriaux, Moubarak, Assad, etc., ou Kadhafi. Je crois que c'est le point de départ. Et puis ensuite, il s'est engagé dans un engrenage qui n'aurait peut-être pas donné ces résultats-là s'il n'y avait eu, et ça c'est très important, le coup d'État du 15 juillet 2016 contre lui. Et à partir de là, si vous voulez, la part islamiste de Erdogan a reculé au profit de la part nationaliste pour donner cette synthèse au fil des mois à laquelle nous assistons aujourd'hui, cette synthèse dans laquelle il doit à la fois, si vous vouliez, alimenter son camp islamiste et surtout satisfaire la branche nationaliste qui le soutient, à savoir le MHP turc, un mouvement d'extrême droite, parfois avec des tendances fascistes, un mouvement antisémite, un mouvement xénophobe, qui s'accommode très bien de l'idéologie islamiste finalement, même si le point de départ était plutôt nettement kémaliste. Donc aujourd'hui, cette synthèse islamo-nationaliste, c'est ce que Erdogan veut incarner. Or, pour nourrir cette alliance, il faut qu'en permanence, il apporte de la tension et du conflit, avec des possibilités de victoire facile, afin de nourrir la branche nationaliste, puisque c'est la branche nationaliste qui lui a permis d'épurer l'armée, de reprendre le pouvoir sur un autre agenda que celui qu'il avait amené au pouvoir initialement, c'est-à-dire l'agenda islamiste. Et dans cette synthèse extrêmement bizarre qu'il est en train de réaliser, il faut qu'il y ait une conflictualité permanente. D'où la Syrie, bien sûr, mais ça c'était antérieur au coup d'État, et depuis le coup d'État et cet embranchement, si j'ose dire, ce montage islamo-nationaliste, on a assisté à l'engagement en Libye, aux manœuvres en Méditerranée orientale, à l'agression contre la Grèce, à différentes actions dans les Balkans, que tout le monde oublie, a des actions dans le nord de l'Irak, puisqu'il entend carrément contrôler une partie, et puis maintenant, bien sûr, cette nouvelle initiative qui consiste à rejoindre le peuple azéri dans une vision pantouraniste, c'est-à-dire panturque, qui amène la Turquie à agresser l'Arménie par l'Est, alors qu'elle impose à l'Arménie, depuis son indépendance en 1991, un blocus à l'Ouest. Je tiens à rappeler que l'Arménie n'a commis aucun acte d'agression vis-à-vis de la Turquie depuis son indépendance en 1991. Donc il y a quelque chose d'assez choquant de voir la Turquie agresser un pays qui ne l'a pas agressé par l'Est, c'est-à-dire au nom d'une fraternité ethnique avec les Azéris, et pour tout dire presque raciale. Et là, il y a un concept nouveau dans les relations internationales. C'est-à-dire, c'est un peu comme si la France intervenait au Québec au motif que des vieux cousins francophones seraient menacés par la partie anglophone. Ça choquerait le monde entier.
Ce qu'avait fait un peu De Gaulle, par ailleurs.
Mais il s'est contenté du stade verbal, qui était, comme chacun sait, au commencement était le verbe. Certes, ça a déclenché beaucoup de choses, mais il ne s'agissait tout de même pas d'un acte de guerre, même si ça venait de la part d'un général.
Alors, on va évoquer la question des loups gris et également l'importance du gaz, notamment en Méditerranée orientale. Mais avant de voir ces deux sujets, je voudrais, Tigrani et Gavion, revenir sur le concept de patrie bleue. Parce que c'est un sujet dont on parle très peu en France. On parle beaucoup de néo-ottomanisme et on ne voit pas forcément que ce concept de patrie bleue, notamment en zone de Méditerranée orientale, est fondamental pour comprendre la position turque et la stratégie turque. Un concept qui a été inventé par un amiral, Selmbor Deniz, en 2004-2005, donc c'est assez récent malgré tout.
Eh bien, il faut comprendre que quand vous regardez une carte des frontières maritimes de la République de Turquie telles qu'elles ont été établies en 1923, avec le traité de Lausanne, qui se dit au passage liquide donc la question des minorités de l'Empire ottoman, chrétiennes, hein, arméniennes, assyro-chaldéennes, grecques, etc., la Turquie se voit en fait privée d'une zone exclusive, économique exclusive en mer Égée, en mer Méditerranée, je crois que c'est quelques milliers de nautiques, enfin en tout cas la frontière avec les îles grecques Égées sont minimes. Et donc ça n'a pas été forcément un handicap à l'époque du kémalisme, étant donné que sous Mustafa Kemal, la mantra c'était paix chez nous, paix chez les voisins, il y avait un repli, un véritable repli en fait sur le sanctuaire anatolien. Et dans les années 70, lorsque les Grecs ont découvert l'existence de gisements de gaz dans la mer Méditerranée, dans la mer Égée, les Turcs ont commencé à s'intéresser, ont commencé à porter le dossier de la délimitation des frontières. Et donc, ce qui motive la Turquie, bien entendu, c'est de remettre en question le traité de Lausanne, de remettre en question les accords sur le droit maritime, ou tout ça pour des velléités essentiellement opportunistes, parce que la Turquie n'a pas les moyens de mener à bien ses forages. Une chose, c'est de procéder à des forages en termes sismiques, parce qu'ils ont les moyens d'acheter des bateaux au surplus pour réaliser donc des tests sismiques. Mais l'autre chose, c'est d'avoir les moyens d'exploiter. Et là, on part d'une autre temporalité, on part d'un minimum de 10 ans. Et à l'évidence, ce qui caractérise la politique de M. Erdogan dans ce contexte, dans cette conjoncture, c'est essentiellement l'opportunisme. Christian Macario a parlé de panturquisme, a parlé de panislamisme. Mais ce qui est vraiment à la base de cette politique, c'est tirer profit d'une certaine rente géopolitique qui le permet de retourner un rapport de force qui, au départ, ne lui est pas favorable.
Justement, sur le gaz, vous dites très bien, faire une exploration, découvrir des gisements, faire un forage, ça se fait. Mais ensuite, avoir une plateforme gazière en mer en plus, donc exploiter le gaz, l'amener vers la terre pour ensuite l'exporter soit en Turquie, soit ailleurs, ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a l'impression que le projet turc, il est vraiment à très court terme, et qui ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est que d'exploiter du gaz sur un gisement pendant 20 ou 30 ans.
Ce que vise la Turquie, c'est de faire valoir ses droits, et effectivement, en modifiant les règles de droit international maritime sur la zone économique exclusive. Elle veut la prolonger au motif que son plateau continental irait sous la mer et que la prolongation de son plateau continental lui permettrait d'aller très au-delà de la zone économique exclusive. C'est ça le raisonnement turc. Et bien sûr, au milieu de tout ça, il y a les îles grecques, puisqu'on compte près de plus de 900 îles grecques, îles et îlots grecs en mer Égée. Donc c'est quelque chose d'inextricable. Donc ce que cherche Erdogan, à mon avis, c'est à prendre la part du gâteau qu'il estime lui appartenir. Et si vous regardez ce qu'il a fait en Libye, il a passé un accord avec le gouvernement de Tripoli pour l'extension de la zone libyenne et pour l'exploitation en commun. Donc quelque part, si vous regardez une carte, toutes ces zones peuvent se rejoindre et essayer de dessiner, pas un mauvais jeu de mots, mais une sorte de croissant turc autour de Chypre, donc à l'est de Chypre, qui descendrait vers le sud jusqu'à la Libye. Et dans cette zone-là, évidemment, à l'inverse, quatre pays se sont regroupés, Égypte, Israël, Grèce et Chypre, pour dessiner un contre-front aux ambitions turques. Et l'affrontement était inévitable. Ce que Erdogan essaie de faire, justement, en provoquant des heurts avec la Grèce, soit en envoyant des migrants sur le sol grec, comme il a fait au début de l'année, pour semer des troubles en Grèce, soit en agressant directement des îles grecques ou des embarcations de la marine grecque, soit en s'en prenant au navire français, le Courbet, qui n'avait pour but que de vérifier qu'un navire turc supposé commercial ne transportait pas des armes. Or, il est avéré qu'il en transportait. Donc la France était là dans une mission internationale qui est définie par l'ONU. Erdogan se heurte à absolument tout le monde. Et je ne suis pas sûr que ça le conduise très loin. Mais néanmoins, c'est pour lui une manière, encore une fois, de donner satisfaction à tout le clan militaire et nationaliste sur lequel son pouvoir repose.
Ceci dit, quand la Turquie a envahi le nord de Chypre en 1974, il n'y a pas eu de réaction des pays européens.
Il y a un embargo de la part des États-Unis d'armes, donc à l'égard de la Turquie, mais c'est vrai que l'opinion européenne n'était pas forcément très émue par l'occupation de 37% du territoire de la République de Chypre, puisque ça n'a pas empêché que Chypre rentre dans l'Union européenne en 2004 sans qu'il trouve une solution à ce problème.
Si on reste sur le sujet du gaz, il y a un très grand gisement qui a été découvert au large de l'Égypte, sur lequel d'ailleurs travail Total et Eni. Alors on nous promet un peu monts et merveilles en nous disant que c'est un gisement extrêmement important. Qu'en est-il exactement de ces gisements supposés? Puis évidemment, il y a toujours ce qu'on suppose et puis il y a ce qu'on découvre.
Alors ce qu'on sait, c'est que la masse de gaz que ça pourrait représenter est absolument gigantesque. Je n'en donnerai pas les quantités parce que je ne suis pas spécialiste, mais la nappe est très étendue et elle peut alimenter plusieurs pays, d'où l'accord entre Israël, Égypte, Chypre et Grèce. Il y a de quoi faire, si j'ose dire. Et la Turquie veut s'inviter à cette table, bien sûr, alors qu'elle n'est pas conviée et que, si on s'en tient au droit maritime actuel, elle n'y a pas accès. Donc, elle repousse les limites pour y avoir accès. Alors, ce gaz, il présenterait l'avantage, bien sûr, de fournir une exploitation qui sera techniquement à inventer, hein, qui est complexe, mais qui pourrait changer complètement la donne pour un pays comme Chypre, pour un pays comme Israël, qui est totalement dépendant sur le plan énergétique, et pour un pays comme l'Égypte, qui est littéralement en faillite et qui vit de subsides et de la manne saoudienne. Donc il y a quelque chose de crucial, à la fois sur le plan de l'exploitation énergétique, sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique et stratégique. Donc ce gaz, tel qu'il est situé sur la carte, il représente un enjeu qui dépasse de très loin la question énergétique.
Et ensuite, il faut le sortir, le gaz. Donc, il y a les gazoducs. Et là, on retrouve la Turquie, qui est un carrefour de gazoducs entre les gisements qui sont en Asie, qui passent par la Turquie pour arrivent en Europe. Il y a les gisements russes également. La Turquie est un petit peu le nœud gordien des gazoducs.
La Turquie se voit comme un hub géostratégique, mais je pense que le terme hub n'est pas forcément très bien approprié. C'est surtout un lieu de passage, un lieu de transit, et pas un lieu de convergence de plusieurs tubes, le TANAP, le Nord Stream, etc. Je pense que c'est un petit peu... je pense qu'on s'emballe un petit peu quand on dit que la Turquie a les moyens de son ambition, étant donné que les gaziers, enfin les consommateurs n'aiment pas les risques. Or, on parle d'une zone quand même géopolitiquement très risquée. N'oubliez pas que les gisements qui sont en Méditerranée orientale, c'est beaucoup moins que ce qu'il y a au Qatar et encore moins que ce qu'il y a au Nigeria. Ça équivaut à peu près aux réserves prouvées de l'Algérie.
Ce qui est
assez considérable. Mais toujours est-il que s'il y a par exemple des conflits, la Turquie donc importe du gaz d'Azerbaïdjan, de Russie, elle est même très consumériste, elle a une forte demande intérieure de gaz. Elle peut très bien, s'il y a des tensions politiques, couper les vannes, garder le gaz en fait qu'elle consomme, qui normalement doit aller plus tard en Italie, en Europe occidentale, peut très bien le garder pour elle. Donc je pense qu'il y a aussi un facteur risque à prendre en considération.
Je pense que les routes gazières, des gazoducs, etc., ne passent pas forcément par la Turquie. Ce que veut faire la Turquie, c'est justement, en entrant dans le jeu, imposer que, quelque part, ça passe par ses côtes ou un endroit où elle puisse avoir un droit de regard et bien sûr des bénéfices à cette opération. Mais les quatre pays que j'ai cités précédemment, Israël, Égypte, Chypre et Grèce, n'ont pas besoin, en termes d'itinéraire ou de passage, de la Turquie. Au contraire, le projet d'exploitation de ce gaz, de cette nappe, peut se concevoir sans la Turquie. Ce que veut Erdogan, c'est qu'il ne se conçoive pas sans la Turquie. Et tout l'enjeu est là.
Et vous avez d'autres options aussi. On parle de la pose de tubes qui peut poser des risques, des problèmes, des turpitudes entre des gouvernements qui ont des intérêts convergents. Mais il y a aussi la question de la liquéfaction de ce gaz. En Égypte, les Français, Gaz de France, les Espagnols ont construit des usines de liquéfaction qui fonctionnent. Et cette option est tout à fait envisageable si vous voulez faire transporter ce gaz liquéfié par bateau. Ça permet aussi d'éviter certaines complications avec la Turquie.
Il y avait une peur peut-être, qui circulait dans les années 2000, c'est l'idée d'un grand califat islamique en Asie orientale, notamment autour des populations turcophones, je pense notamment aux Ouïghours ou autres. Cela n'a pas eu lieu, on a vu que l'État islamique s'est plutôt fondé dans les mondes arabes. Est-ce que les Turcs ont aujourd'hui une politique d'influence dans ce monde turcophone, qui est la vaste plaine eurasiatique, les Mongols, c'est un peu leur origine d'ailleurs. Est-ce que c'est une zone vers laquelle ils regardent aujourd'hui, vers laquelle ils ont des projets également, ou est-ce qu'ils ont mis un terme ?
Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que l'Asie centrale n'a pas de tradition ottomane. On part quand même d'une ère régionale, donc l'espace turcophone qui est fantasmé par les nationalistes panturquistes, panturaniens, a été complètement coupé de l'Anatolie, de l'Empire ottoman pendant des siècles. Et donc il y a eu en quelque sorte une sorte de rendez-vous manqué en 91 lorsque ces républiques musulmanes d'Asie centrale accèdent à l'indépendance. L'État turc, ses officines, les agences de développement investissent ces régions avec un certain néocolonialisme, une certaine condescendance qui est passée très très mal dans des pays comme l'Ouzbékistan ou le Kazakhstan, même le Turkménistan qui ont des relations très tendues avec la Turquie. Le seul pays qui a des relations fraternelles qui se voit à des seins politiques comme une nation, deux États, c'est l'Azerbaïdjan. Donc il faut nuancer déjà ce récit en disant que ce sont des États souverains qui ont leur propre agenda et qui ne sont pas forcément d'un bon œil l'entrisme turc.
Il faut situer cette idée de panturquisme dans l'histoire. Le but initial des grands sultans, Mehmed II ou ses successeurs, Soliman ou autres, c'est l'Europe. C'est la conquête de l'Europe, la conquête des Balkans et le fameux siège de Vienne par deux fois. La deuxième fois en 1683, donc deux fois un échec. Mais enfin quand même, la Turquie, lorsqu'elle s'est emparée, Soliman le Magnifique en l'occurrence, de Belgrade, le point peut-être le plus à l'ouest, a développé une politique d'alliance européenne. C'est pas par hasard que la fameuse alliance entre François Ier et Soliman le Magnifique se fait après la prise de Belgrade et que ça met François Ier dans la position d'un mécréant au milieu de la sphère chrétienne. Ça n'a pas valu à la France que des compliments, loin s'en faut. Mais tout ça a été conçu par François Ier pour se venger de Charles Quint, qui l'avait vaincu et qui l'avait fait mettre en prison en Italie. Donc je crois quand même qu'il ne faut pas mythifier, comme le fait le Quai d'Orsay, la sublime alliance entre la sublime porte et la cour de France. C'était quand même du petit jeu de loser de la part de François Ier. Mais ce que je veux dire, pour revenir au panturquisme, c'est que ces idées de panturquisme n'existaient pas, mais n'existaient pas du tout avant la fin, enfin le milieu ou la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où l'Empire ottoman a perdu territoire sur territoire en Europe, bien sûr la Serbie, puis la Bosnie, et puis ensuite la Roumanie, la Bulgarie dans tout dernier, avec des massacres, et puis j'ai oublié, pardon, dès 1822, le pays qui a inauguré toute cette phase de déclin qui est la Grèce, avec l'indépendance de la Grèce et le mouvement Philhellène, la Turquie n'a eu que du fil à retordre avec son européanité, entre guillemets. C'est la raison d'ailleurs qui explique pourquoi, lorsque le conflit mondial a éclaté en 1914, les Turcs se sont retournés avec une férocité exceptionnelle contre, par exemple, les Arméniens, parce que les Arméniens avaient des velléités d'indépendance à l'intérieur du quadrilatère anatolien, et non plus à l'extérieur, comme c'était le cas des Bulgares, des Grecs ou des Roumains. Alors, c'est là qu'on a vu arriver, avec des théoriciens turcs, comme Ziya Gökalp, par exemple, dont se réclame aujourd'hui les loups gris, des théoriciens qui ont inventé de toutes pièces l'idée que l'union de tous les peuples turcophones jusqu'à la Chine constituerait un empire immense, en substitution de l'empire de l'Ouest, qui était les possessions européennes, définitivement perdues. Mais c'est une vision fantasmée qui n'a jamais vu le jour. Moi, j'ai été plusieurs fois en Ouzbékistan, j'ai toujours remarqué que les Ouzbeks, incontestablement turcophones, incontestablement musulmans, et qui ont donné, eux, des noms très prestigieux à l'histoire de l'islam, de l'histoire générale de l'islam, pas seulement de l'Asie centrale, eh bien, ont été agacés par les prétentions turques à leur donner des conseils ou, en gros, à s'implanter dans leur pays. C'est un exemple assez frappant. Donc l'Asie centrale n'est pas si ouverte, comme l'a dit Tigrane, pas si ouverte que cela à l'influence turque. En revanche, via l'Asie centrale, incontestablement, la Turquie, à partir des années 90, a mis un pied dans le système russe, donc il y a beaucoup d'implantations turques au Kazakhstan, dans le système post-soviétique, je veux dire, et il y a énormément d'implantations d'entreprises turques en Russie, notamment le BTP russe, bien avant l'alliance ou le rapprochement entre Poutine et Erdogan, mais vraiment bien avant, déjà sous Yeltsin, tous les grands chantiers de BTP à Moscou ou à Saint-Pétersbourg étaient très souvent dirigés par des entreprises turques, ou bien elles en avaient reçu la charge et le cahier des charges. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, la percée de la Turquie à l'Est, mais qu'il faut en même temps extrêmement relativiser. C'est en revanche très utile sur le plan politique. Voilà. Si ça n'a pas de réalité économique tout à fait évidente, c'est très très utile sur le plan politique, parce qu'encore une fois, ça permet d'alimenter le nationalisme pan-turc dont Erdogan a besoin.
Pour compléter les propos de Christian Makarian, en fait, n'oubliez pas que la Turquie ne regarde pas que à l'Est ou le Moyen-Orient, elle vous regarde à 180 degrés, et c'était un petit peu le slogan de l'architecte du zéro problème avec les voisins, Ahmed Davutoğlu. Donc, les médias ont eu tendance à hâtivement percevoir ça comme du néo-ottomanisme. Alors, il y a deux éléments qui sont intéressants, c'est aussi le rapprochement turco-africain. L'Afrique est aussi un continent considéré en jachère par la diplomatie turque, où historiquement, elle a aussi des leviers de
notamment
puissance.
Notamment dans la Corne, en Somalie.
La Corne de l'Afrique, la base en Somalie, la base dans Mer Rouge au Soudan, qui fait face à l'Arabie Saoudite, qui est purement stratégique. Il suffit de regarder la carte des lignes aériennes de Turquie Airlines, l'ouverture des lignes aériennes et des ambassades pour comprendre le déploiement de cette influence qui se fait à un coût relativement peu élevé. Il y a un vrai retour sur investissement de la part de la Turquie.
En Somalie, il y a plusieurs dignitaires somaliens qui ont des passeports turcs et qui voyagent grâce à ça.
Et Mogadiscio est desservi par Turkish Airlines. Je crois que c'est même la seule compagnie de ce nom qui fait la desserte. Alors ça, c'est pour l'Afrique et pour comprendre aussi que les Turcs redécouvrent aussi des minorités ethniquement ourghouzes, ethniquement qui font partie de cette grande famille turcophone. Je veux parler des Turcomans, des Turcomènes de Syrie, d'Irak et du Liban. Mais c'est pas qu'Ankara s'est toujours intéressé au sort de ces minorités. Ces minorités ont connu aussi des véritables oppressions. Moi, j'ai fait mon mémoire de master sur les Turcomènes d'Irak, et je peux vous dire que c'est pas bon d'être turcophone en Irak sous Saddam Hussein, mais aussi dans l'Irak d'après Saddam Hussein, qui a été opprimé par les Kurdes de Barzani, qu'ils avaient un autre qui les opprimait. Et je me souviens pas que les Turcs volaient à leur secours pour nuire au gouvernement autonome kurde avec lequel ils étaient en affaires, puisqu'ils importaient énormément de pétrole et de gaz du Kurdistan en échange de contrats faramineux. Donc il y a aussi, encore une fois, une dimension purement opportuniste qui se déploie en Irak du Nord avec les Turkmènes, en Syrie du Nord avec les Turkmènes qui servent de chair à canon, qui servent de milices, qui vont nourrir les rangs des mercenaires djihadistes qui sont à l'œuvre en Libye, mais plus récemment au Karabakh. Et on découvre aussi que la Turquie investit le nord du Liban en découvrant l'existence de minorités turcophones historiquement liées à la Turquie, même qui étaient des turcophones de Crète, qui sont libanais depuis des générations entières, et qui deviennent en fait des communautés clientes, puisque l'Arabie Saoudite s'est retirée du Liban en tant que parrain sunnite, et que la Turquie s'engouffre donc à la place des Saoudiens dans cette région stratégique aussi de la Méditerranée orientale.
Alors justement, sur la question du nationalisme, il y a les loups gris dont on a parlé, puisque le gouvernement français a dissous. Enfin, d'ailleurs, il faut voir ce que ça va prendre comme forme réellement, qu'est-ce que ça veut dire. C'est un nom, donc il y a plusieurs associations derrière. Les loups gris, on a découvert leur existence à cette occasion-là. Je renvoie nos téléspectateurs à un article sur le site de conflit écrit par Xavier Hofer, qui est criminologue, qui a consacré un long article au loup gris. En quelques mots, Tigrani et Gavian, c'est une organisation qui est nationaliste, politique, criminelle, assez hybride d'ailleurs. Mais dans leur organisation.
Pour comprendre les loups gris, il faut comprendre que derrière, il y a une structure politique qui s'appelle le MHP, en turc Milli Hareket Partisi, le parti d'un mouvement nationaliste, dont le père fondateur était un turc de Chypre, qui s'appelait Arpaslan Türkeş, et qui lui avait vraiment une vision géopolitique pan-turquiste, pan-touranienne, et qui se reconnaissait dans ce récit que Christian Macarian a évoqué. Et donc, pendant les années de ce qu'on appelait la tension, la guerre civile larvée que la Turquie a connue entre 1976 et 1982, on est en plein contexte de la stratégie de la tension, comme il y avait aussi en Europe, hein, avec les réseaux Gladio d'Italie. Les loups gris servaient en fait de bras armés indirects en fait, de l'État profond turc pour mater l'extrême gauche, puisque le Parti communiste turc et les organisations d'extrême gauche turque étaient très influentes et très importantes dans les campus et dans la Turquie. Donc, ils ont servi, si vous voulez, à l'armée pour. Avec cette stratégie du chaos, ils ont aidé l'armée à revenir au pouvoir et à faire une vraie chasse aux sorcières en 1980. Et à établir ce qu'on a appelé la première synthèse turco-islamiste. C'est-à-dire que c'est vraiment des bras armés de l'État profond turc qui sont à la fois déployés en Turquie au service de cet État profond pour opprimer les opposants, les Kurdes, en moindre mesure les Arméniens, et à l'extérieur aussi, ils ont servi comme agents en fait, pour exécuter des opérations sensibles en coopération avec les services secrets. C'était à l'époque où les Arméniens étaient organisés, il y avait une vraie lutte armée, il y avait des mouvements terroristes arméniens qui pourchassaient les diplomates turcs en Europe occidentale, et les loups gris avaient été à cet égard utilisés pour neutraliser des cibles arméniennes. Alors maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit en comment les loups gris sont établis dans les principaux points de la diaspora turque d'Europe occidentale, Pays-Bas, Belgique, Allemagne surtout, en moindre mesure France, et continuent en fait à servir encore d'avant-garde de ces réseaux pour justement combattre les ennemis de la Turquie.
Non, je crois qu'il ne faut pas fantasmer sur un point, et ça j'aimerais bien revenir là-dessus, c'est sur cette idée de califat et qui se mélange avec celle de sultanat, puisque bon, il faut le rappeler, le sultan ottoman était aussi calife. Et que le titre de calife est tombé en désuétude, il a été supprimé par Mustafa Kemal en 1924, et que depuis, si j'ose dire, on assiste à un fantasme musulman absolument partout, que ce soit chez les Arabes, chez des populations africaines aussi. Au Mali, il y a des gens qui rêvent d'instaurer un califat. Donc ce mot est une marque à l'abandon dont tout le monde peut s'emparer. Et ce qu'essaie de faire Erdogan à travers cette synthèse islamo-nationaliste, c'est quand même inconsciemment de restaurer une forme de califat non dit. Et qui serait bien sûr à son profit personnel, ou en tout cas au profit de la Turquie. Mais tout ça ne tient pas la route. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans la stratégie d'Erdogan et l'évocation de l'Empire ottoman, il oublie un détail qui est quand même le plus important. C'est que l'Empire ottoman a très mal fini. Et qu'en gros, son agonie a duré de la fin du XVIIIe siècle à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est quand même une des plus longues agonies que l'on ait connues dans l'histoire de la Méditerranée. Et qu'en soi, ça n'était pas viable. Bon, ça, c'est la première chose qu'il oublie. La deuxième, c'est que ça ne se faisait pas sur une base de conflictualité, mais de soumission. C'est-à-dire qu'en fait, l'Empire ottoman avait une forme de génie qui était d'associer et de donner des postes à des Albanais, à des Serbes, à des Grecs, à des Arméniens, à des Égyptiens. Et c'est par cette association sous le règne de la soumission des minorités, certes, mais tout de même leur association quelque part, que l'Empire ottoman a pu durer si longtemps. Et aujourd'hui, ce que propose Erdogan, c'est exactement l'inverse. C'est une synthèse ottomano-nationaliste. Alors là, je vois pas du tout comment ça peut marcher. Parce que, comme le disait Tigran tout à l'heure, on a eu un ministre des Affaires étrangères en Turquie qui s'appelait Ahmet Davutoğlu, et qui est remplacé aujourd'hui par un personnage beaucoup plus phallo, qui s'appelle Çavuşoğlu. Mais Ahmet Davutoğlu, qui était à l'AKP, le parti de Erdogan, a fondé sa propre branche politique, donc il a fait scission, et il avait pour devise ce que Tigran a rappelé, zéro voisin, zéro problème avec les voisins, et aujourd'hui on peut dire clairement que la ligne d'Erdogan, c'est un problème avec chacun de nos voisins.
Zéro voisin sans problème.
Ou zéro voisin sans problème. Donc là, si vous voulez, Davutoğlu est sorti du paysage, il a fondé son propre parti, mais je trouve qu'il y a un émiettement du pouvoir interne, il ne faut jamais oublier la partie interne, dans ce qui concerne la Turquie, il y a un émiettement du pouvoir interne d'Erdogan, qui n'est pas prometteur, à mon avis, d'une très longue prospérité. J'ajoute que si les résultats des élections américaines confirment que Joe Biden arrive à vaincre Donald Trump, il y aura une modification tout de même de cette phase extrêmement favorable à Erdogan qu'a constituée la présidence de Donald Trump. D'après les révélations d'un journaliste américain qui a écrit un livre très intéressant, une biographie de Donald Trump, on apprend que Donald Trump téléphone deux fois par semaine à Erdogan, qu'il a pour lui la plus haute estime, et d'ailleurs Erdogan s'en réclame. Je ne suis pas sûr qu'avec Joe Biden il en irait de même. Donc je pense que ça, c'est de nature à changer, car il ne faut jamais oublier à quel point l'armée turque est dépendante de l'armée américaine, mais totalement.
Je pense qu'il y a une analogie à faire entre le calife, entre guillemets, Erdogan et le règne d'Abdul Hamid, qui commence en fait son Abdul Hamid II, le sultan rouge, par beaucoup d'euphorie, puisque c'était la séquence où la constitution ottomane était réhabilitée, donc il y avait une certaine vague d'optimisme. Et il y en est de même pour Erdogan, qui arrive au pouvoir en 2002 avec la promesse de débarrasser la Turquie de l'armée et profiter donc du virage pro-européen pour se présenter comme un démocrate musulman et démocratiser la société par le haut. Est-ce qu'on voit aujourd'hui, depuis quelques années, depuis 2015 surtout, depuis 2016, depuis le faux coup d'État ou le coup d'État manqué, un virage autoritaire, un repli sur soi, et quand vous voyez l'organigramme qui gouverne la Turquie, c'est plus que jamais un raidissement autoritaire, mais surtout un rétrécissement autour de la famille d'Erdogan, autour de son gendre, de ses filles, de ses
proches. Ce qui explique pourquoi il faut absolument qu'il reste au pouvoir, parce qu'il aurait des ennuis s'il perdait le pouvoir.
Il sera en prison dans les heures qui suivent. Donc il y a une vraie analogie, je pense, qui pourrait être approfondie.
Et la Turquie, enfin, en dépit des redemontades extérieures, est un pays qui demeure fragile. Il y a quelques années, on a vu la livre turque qui a fortement baissé.
Poursuit sa chute,
il y a des problèmes aussi internes.
Il y a 15 ou 20 millions de Kurdes, on ne sait pas très bien, mais enfin, il y en a quand même une très forte minorité. Oui.
et tout ça coûte cher. Enfin, la guerre a un coût.
Les drones sont impressionnants.
La guerre a un coût. Il y a 3 millions et demi de réfugiés. Pas seulement syriens, mais de réfugiés de tout le Moyen-Orient et jusqu'au Pakistan, hein, qui arrivent en Turquie.
Ça, ils les envoient vers l'Europe après.
Ben oui, ça a été démontré, puisque avant qu'on signe l'accord de mars 2016, il y a eu une vague de migrants, et sitôt que l'Union européenne a signé un accord et qu'on a fait des chèques à Erdogan, comme par hasard, le flot s'est tari. Donc c'est la démonstration que la Turquie utilise des êtres humains, en l'occurrence les migrants, démunis de tout, comme un argument stratégique contre l'Europe, ou en tout cas pour en retirer des avantages. La meilleure preuve encore, s'il en fallait une, c'est qu'Erdogan exige maintenant des visas pour tous les ressortissants turcs sur le territoire de l'Union européenne, ce qu'on ne lui a pas encore accordé.
Si on reste sur les Balkans qu'on a évoqués, il y a eu plusieurs discours d'Erdogan dans la région où il expliquait qu'il souhaitait de nouveau être présent dans les Balkans. Donc, de nouveau, la Turquie regarde vers l'Europe et il n'a pas perdu, enfin du moins dans la rhétorique d'Erdogan, il n'a pas perdu l'espoir de replanter le drapeau ottoman.
C'est là que c'est décousu, c'est un mélange de pantouranisme, d'ambition ex-ottomane sur un pays comme la Bosnie par exemple, où il s'est rendu, il a été applaudi, félicité. Il a de très bonnes relations avec l'Albanie, les Albanais étant anciennement les collaborateurs des Turcs dans toute la région, ce qui fait qu'ils sont exécrés par les Serbes, par les Grecs, méprisés par les autres. Mais bon, les Albanais ont eu des postes très importants, hein. Ils ont eu des postes de gouverneur jusqu'au gouverneur de l'Égypte. Donc, il y avait toute une politique, si vous voulez, des minorités divisées pour régner, très très utilement utilisées par les employés, pardon, par les sultans. Non, moi je ne crois pas que ça puisse aller très loin, parce que ça se heurte à une autre réalité, c'est la façon dont l'Europe centrale et orientale se restructure autour du sentiment national. Regardez les tensions en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, la question de la Macédoine pour la Grèce, il n'y a pas de place pour la Turquie dans ce système de tension-là. Je ne le crois pas.
La force de la Turquie, c'est la division des Européens. C'est surtout ça. Erdogan ne croit qu'au rapport de force. Et il voit en face de lui une Europe fragmentée, divisée. Il voit que Mme Merkel, donc les Allemands ont énormément d'intérêts économiques avec eux, plus la présence de 3,5 millions d'Allemands d'origine de Turquie, qui ne sont pas forcément des Turcs unis, des Kurdes. Donc il joue beaucoup sur ce tableau-là, mais je ne pense pas que c'est là un argument de puissance. Et puis, bon, la Macédoine du Nord, le Kosovo sont des États qui ne sont pas tout à fait viables, économiquement parlant. Les Turcs arrivent, si vous voulez, avec toute leur infrastructure pour pouvoir étendre leur influence économique. Mais tout cela reste assez limité.
Pour l'instant, il n'y a que la France qui a réagi. On a fait des opérations maritimes
avec la Grèce.
Oui. La Grèce, la France.
France est officiellement
un rival.
Imposé comme protecteur de la Grèce et de Chypre. Ça, c'est clair et net. Maintenant, ça pose un problème à la France, c'est qu'elle est seule. Elle n'est pas suivie par l'Allemagne sur cette politique, et encore moins par les pays scandinaves, qui ne voient pas ça de cette manière-là. Et y a quelque chose qui est d'ailleurs assez incompréhensible, c'est qu'il y a beaucoup plus d'âcreté ou de ressentiment dans l'Union européenne à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine, qu'il n'y en a à l'égard de Recep Tayyip Erdogan. Et là, on peut se demander si c'est vraiment justifié. Je ne suis pas en train de dire que Poutine ne mérite pas des sanctions, mais si Poutine mérite des sanctions, Erdogan en mérite aussi. Et il mérite en tout cas qu'on réfléchisse au chèque annuel que l'Union européenne lui adresse au titre de l'adhésion future et fantasmée et mythique, parce qu'elle ne se produira pas, de la Turquie à l'Union européenne. Chaque année, on lui envoie 7 milliards parce qu'il faut aider les candidats à l'Union européenne. La Turquie est candidat à l'Union européenne alors que le chef d'État turc injurie et insulte le chef d'État français. Je veux dire, il va falloir que les dirigeants européens expliquent ça aux peuples européens, qu'on fait un chèque à un État qui joue le cheval de Troie pour faire exploser l'Union européenne. Il y a quand même des absurdités, si vous voulez, qui va falloir éclaircir. Alors qu'on n'a aucune difficulté à voter des sanctions, chaque année à les reconduire, contre la Russie parce qu'elle a annexé la Crimée. Je pense que c'est juste, je ne suis pas en train de critiquer, mais je dis que si on fait cela au sujet de la Crimée, il faut le faire aussi et il faut l'appliquer à la Turquie.
Et la Turquie qui occupe Chypre, qui est membre de l'Union européenne et qui a... Enfin, qui présente la Grèce comme un de ses ennemis, qui est elle aussi membre de l'Union européenne.
Et membre de l'OTAN de surcroît. C'est-à-dire que la Turquie viole deux systèmes. L'Union européenne, dont elle n'est pas membre, à la rigueur, mais à laquelle elle postule, officiellement toujours. Et en tout cas, elle agresse un membre de la même alliance, de l'OTAN en l'occurrence, qui est la Grèce. Et ça, c'est absolument pas tolérable. Je crois que ce qu'on a observé à travers les crises de l'année passée, c'est qu'Erdogan mesure son pouvoir au taux de réaction dont ses partenaires ou ses adversaires font preuve. Lorsqu'il est allé trop loin l'été dernier face à la Grèce, il a vu que l'Europe se fâchait un peu tout rouge, si j'ose dire, et il a levé le pied temporairement, et il a retiré le fameux bateau Rouge Reis de la prospection pétrolière. Ben, il l'a rétabli depuis, mais pendant quelques semaines, il l'a retiré pour donner l'impression quand même qu'il avait compris l'avertissement. Cet homme explore les limites, explore constamment les limites. Et ça, de ce point de vue-là, je dois dire, c'est un vrai ottoman, parce que ça a toujours été la ligne des sultans. Jusqu'où puis-je abuser? Jusqu'où puis-je dépasser les bornes? Jusqu'au moment où il y a une explosion qui m'arrête. Eh bien, c'est cela, la ligne d'Erdogan. Donc, tout chez Erdogan s'explique par la mollesse de la réponse qui lui est apportée. Comme il ne voit pas de riposte, il continue d'avancer. Et ça, c'est une constante depuis Mehmet II et la prise de Constantinople en 1453. C'est une sorte de génie de la diplomatie turque d'explorer constamment les limites et d'aller au bout extrême du déclenchement des hostilités sans que les hostilités se déclenchent. Donc la seule réponse à apporter aujourd'hui Erdogan de la part de l'Europe, c'est une riposte cinglante, claire et nette, au nom des grands principes. Les grands principes ont été enfreints, il faut le rappeler à la Turquie et au besoin prendre des sanctions ou bien alors suspendre certains financements. On n'est pas du tout obligé de passer dans une épreuve de force.
Ce qui suppose aussi que l'Europe, les pays de l'Union européenne doivent avoir une vision politique,
avoir une stratégie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Non, ce n'est pas le cas, parce que notamment, il y a une grande différence, tout le monde le sait, entre l'Allemagne et la France au sujet de la Turquie. Madame Merkel est favorable à la méthode douce et M. Macron à la méthode plus forte. Madame Merkel, normalement, doit voir son règne se terminer dans une année. Peut-être que c'est ce qui arrivera aussi quelques mois après à M. Macron, j'en sais rien. Mais vu l'état de la situation européenne aujourd'hui, avec cette épidémie, à mon avis, tous les équilibres peuvent être revus et reconsidérés. Mais néanmoins, Mme Merkel n'est pas éternelle. Donc, que décidera son successeur et notamment quel sera son degré d'entente avec la France au sujet de la Turquie. D'ici là, la Turquie aura fait encore beaucoup de mal à l'Europe sur les différents terrains que nous avons évoqués. Là, elle est en train, par exemple, c'est tout frais, d'essayer de former les gardes-côtes libyens. Pourquoi ? Pour que les gardes-côtes libyens en réfèrent à la Turquie, autrement dit que la Turquie ait un droit sur les côtes libyennes au sud, mais enfin, aux portes de l'Italie. Autrement dit, la Turquie s'installerait via les gardes-côtes libyens et la formation qu'elle est censée leur dispenser, s'installerait aux portes directes de l'Union européenne. Et ça, si vous voulez, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas, à mon avis, qu'on ne peut pas tolérer. Et il faut absolument qu'une réponse collective soit envisagée de la part de l'Europe.
Oui, juste pour rebondir à ce que dit Christian Macarian, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que la Turquie est un pays excessivement vulnérable économiquement parlant, socialement parlant, qui est vraiment au bord de l'implosion, mais qui a toujours pu et su tirer profit de sa position géostratégique. Et on a l'impression qu'il y a une nouvelle économie qui se met en place depuis quelques années à la faveur de tous ces foyers de tension, tous ces actes de pyromane, en fait, que Erdogan allume au Moyen-Orient, au Caucase, en Libye. Tout ça rapporte de l'argent aussi à la Turquie. Oui. La Turquie, elle gagne au change en Libye, puisque quand même, elle arrive avec le gouvernement d'Union nationale de Tripoli aussi d'avoir des intérêts, du pétrole, du gaz, et leur vendre des armes. Donc tout cela paye. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça est payant pour Erdogan. Ce n'est pas que des gesticulations pour voir jusqu'où il peut aller. C'est tout carrément un nouveau système économique de prédation qui s'est mis en place dans différents terrains, dans différents territoires et qui, a priori, fonctionne.
C'est le propre des empires d'ailleurs de vivre de prédation et sur les terrains occupés.
Le propre de l'empire et sa définition, c'est qu'il n'a pas de limite. Il faut constamment les repousser.
Surtout quand on vient des steppes.
Surtout quand on vient des steppes. Donc la question des frontières doit être posée par l'Europe. Il faut marquer un coup d'arrêt aux ambitions violentes et aux pulsions déstabilisatrices de la Turquie.
Bien, merci beaucoup à vous deux, Christian Makarian et Tigran Igavian. Je rappelle votre ouvrage « Généalogie de la catastrophe ». Vous trouvez toutes les références sur le site internet de Conflits. Et puis je vous retrouve à bientôt pour une nouvelle fenêtre sur le monde.